Chapitre 10. Octave Labinski descendit sur les pas du valet de chambre, car il ignorait où se trouvait la salle à manger dans cette maison dont il paraissait le maître. La salle à manger était une vaste pièce au rez-de-chaussée, donnant sur la cour d'un style noble et sévère qui tenait à la fois du manoir et de l'abbaye. Des boiseries de chêne brun d'un ton chaud et riche, divisées en panneaux et en compartiments symétriques, montaient jusqu'au plafond, où des poutres en saillie et sculptées formaient des caissons hexagones coloriés en bleu et ornés de légères arabesques d'or. Dans les panneaux longs de la boiserie, Philippe Rousseau avait peint les quatre saisons, symbolisées non pas par des figures mythologiques, mais par des trophées de nature morte, composés de productions se rapportant à chaque époque de l'année. Des châsses de jardin faisaient pendant aux natures mortes de Philippe Rousseau et au-dessus de chaque peintre rayonnait comme un disque de bouclier un immense plat de Bernard Palissy ou de Léonard de Limoges, de porcelaine du Japon, de majolique ou de poterie arabe au vernis brisé par toutes les couleurs du prisme. Des massacres de cerfs, des cornes d'auroch alternaient avec les faïences, et au debout de la salle, de grands dressoirs, hauts comme des retables d'églises espagnoles, élevaient leur architecture ouvragée et sculptée d'ornements, à rivaliser avec les plus beaux ouvrages de Berruguete, de Cornejo Duque et de Verbruggen. Sur leur rayon à crémaillère brillait confusément l'antique argenterie de la famille de Labinski, des aiguillères aux anses chimériques, des salières à la vieille mode, des hannappes, des coupes, des pièces de surtout, couronnées par la bizarre fantaisie allemande et dignes de tenir leur place dans le trésor de la voûte verte de Dresde. En face des argenteries antiques étincelaient les produits merveilleux de l'orfèvrerie moderne, les chefs-d'œuvre de Wagner, de Duponchel, de Rudolphi, de Froment-Meurice, thé en vermeil à figurines de feu chair et de Werst, plateaux niellés, seaux à vin de champagne aux anses de pampre, au bacchanal en bas-relief, réchauds élégants comme des trépieds de Pompéi, sans parler des cristaux de Bohême, des verreries de Venise, des services en vieux Saxe et en vieux Sèvres. Des chaises de chêne garnies de maroquins verts étaient rangées le long des murs, et sur la table, aux pieds sculptés en serre d'aigle, tombait du plafond une lumière égale et pure, tamisée par les verres blancs dépolis garnissant le caisson central et ses vides. Une transparente guirlande de vigne encadrait ce panneau laiteux de ses feuillages verts. Sur la table, servie à la russe, les fruits entourés d'un cordon de violette étaient déjà posés et les mets attendaient le couteau des convives, sous leurs cloches de métal poli, luisantes comme des casques d'émir. Un samovar de Moscou lançait en sifflant son jet de vapeur. Deux valets, en culotte courte et en cravate blanche, se tenaient immobiles et silencieux derrière les deux fauteuils, placés en face l'un de l'autre, pareils à deux statues de la domesticité. Octave s'assimila tous ces détails d'un coup d'œil rapide, pour n'être pas involontairement préoccupé par la nouveauté d'objet qui aurait dû lui être familier. Un glissement léger sur les dalles, un froufrou de taffetas, lui fit retourner la tête. C'était la comtesse Praskovi Labinska qui approchait et qui s'assit après lui avoir fait un petit signe amical. Elle portait un peignoir de soie quadrillé vert et blanc, garni d'une ruche de même étoffe, découpée en dents de loup. Ses cheveux massés en épais bandeaux sur les tempes et roulés à la naissance de la nuque en une torsade d'or semblable à la volute d'un chapiteau ionien, lui composait une coiffure aussi simple que noble et à laquelle un statuaire grec n'eût rien voulu changer. Son teint de rose carné était un peu pâli par l'émotion de la veille et le sommeil agité de la nuit. Une imperceptible auréole nacrée entourait ses yeux, ordinairement si calmes et si purs. Elle avait l'air fatiguée, languissant, mais, ainsi attendrie, sa beauté n'en était que plus pénétrante. Elle prenait quelque chose d'humain. La déesse se faisait femme. L'ange, reployant ses ailes, cessait de planer. Plus prudent cette fois, Octave voila la flamme de ses yeux et masqua sa muette extase d'un air indifférent. La comtesse allongea son petit pied, chaussé d'une pantoufle en pommard doré, dans la laine soyeuse du tapis gazon placé sous la table pour neutraliser le froid contact de la mosaïque de marbre blanc et de brocatelle de Vérone qui pavait la salle à manger, puis un léger mouvement d'épaule comme glacé par un dernier frisson de fièvre, et fixant ses beaux yeux d'un bleu polaire sur le convive qu'elle prenait pour son mari, car le jour avait fait évanouir les pressentiments, les terreurs et les fantômes nocturnes, elle lui dit d'une voix harmonieuse et tendre, pleine de chaste câlinerie, une phrase en polonais. Avec le comte, elle se servait souvent de la chère langue maternelle au moment de douceur et d'intimité, surtout en présence des domestiques français à qui cet idiome était inconnu. Le parisien Octave savait le latin, l'italien, l'espagnol, quelques mots d'anglais, mais comme tous les gallo-romains, il ignorait entièrement les langues slaves. Les chevaux de frise de consonne qui défendent les rares voyelles du polonais lui en eussent interdit l'approche, quand bien même il eût voulu s'y frotter. À Florence, la comtesse lui avait toujours parlé français ou italien, et la pensée d'apprendre l'idiome dans lequel Mickiewicz a presque égalé Byron ne lui était pas venue. On ne songe jamais à tout. À l'audition de cette phrase, il se passa dans la cervelle du comte, habité par le moi d'Octave, un très singulier phénomène. Les sons étrangers aux Parisiens, suivant les replis d'une oreille slave, arrivèrent à l'endroit habituel où l'âme d'Olaf les accueillait pour les traduire en pensée et évoquèrent une sorte de mémoire physique. Leur sens apparut confusément à Octave. Des mots enfouis dans les circonvolutions cérébrales, au fond des tiroirs secrets du souvenir, se présentèrent en bourdonnant, tout prêts à la réplique. Mais ces réminiscences vagues, n'étant pas mises en communication avec l'esprit, se dissipèrent bientôt et tout redevint opaque. L'embarras du pauvre amant était affreux. Il n'avait pas songé à ses complications. En gantant la peau du comte d'Orval Slavinski, il comprit qu'en volant la forme d'un autre, on s'exposait à de rudes déconvenues. Praskovi, étonné du silence d'Octave, et croyant que, distrait par quelque rêverie, il ne l'avait pas entendu, répéta sa phrase lentement et d'une voix plus haute. S'il entendait mieux le son des mots, le faux comte n'en comprenait pas davantage la signification. Il faisait des efforts désespérés pour deviner de quoi il pouvait s'agir. Mais pour qui ne l'essaie pas, les compactes langues du Nord n'ont aucune transparence. Et si un Français peut soupçonner ce que dit une Italienne, il sera comme sourd en écoutant parler une Polonaise. Malgré lui, une rougeur ardente couvrit ses joues. Il se mordit les lèvres et, pour se donner une contenance, découpa rageusement le morceau placé sur son assiette. On dirait en vérité, mon cher seigneur, dit la comtesse, cette fois en français, que vous ne m'entendez pas ou que vous ne me comprenez point. Oh, en effet, balbutia Octave Labinski, ne sachant trop ce qu'il disait, Ce diable de langue est si difficile. Difficile, oui, peut-être pour des étrangers, mais pour celui qui l'a bégayée sur les genoux de sa mère, elle jaillit des lèvres comme le souffle de la vie, comme l'effluve même de la pensée. Oui, sans doute, mais il y a des moments où il me semble que je ne la sais plus. Et que comptez-vous là, Olaf? Quoi, vous l'auriez oublié? La langue de vos aïeux, la langue de la Sainte Patrie, la langue qui vous fait reconnaître vos frères parmi les hommes? Et ajouta-t-elle plus bas, la langue dans laquelle vous m'avez dit la première fois que vous m'aimiez? Oh, l'habitude de me servir d'un autre idiome, hasarda Octave Labinski à bout de raison. Olaf, répliqua la comtesse d'un ton de reproche, je vois que Paris vous a gâté. J'avais raison de ne vouloir pas m'y rendre. Qui m'eût dit que lorsque le noble comte Labinski retournerait dans ses terres, il ne saurait plus répondre aux félicitations de ses vassaux? Le charmant visage de Praskovi prit une expression douloureuse. Pour la première fois, la tristesse jeta son ombre sur ce front pur comme celui d'un ange. Ce singulier oubli la froissait au plus tendre de l'âme. Elle lui paraissait presque une trahison. Le reste du déjeuner se passa silencieusement. Praskovi boudait celui qu'elle prenait pour le comte. Octave était au supplice, car il craignait d'autres questions qu'il eût été forcé de laisser sans réponse. La comtesse se leva et rentra dans ses appartements. Octave, resté seul, jouait avec le manchon d'un couteau qu'il avait envie de se planter au cœur, car sa position était intolérable. Il avait compté sur une surprise. Et maintenant, il se trouvait engagé dans les méandres sans issue pour lui d'une existence qu'il ne connaissait pas. En prenant son corps au comte Olaf Labinski, il eût fallu lui dérober aussi ses notions antérieures, les langues qu'il possédait, ses souvenirs d'enfance, les 1000 détails intimes qui composent le moi d'un homme, les rapports liant son existence aux autres existences. Et pour cela, tout le savoir du docteur Balthazar Cherbonneau n'eût pas suffi. Mais quelle rage, être dans ce paradis, dont il osait à peine regarder le seuil de loin, habiter sous le même toit que Praskovi, la voir, lui parler, baiser sa belle main avec les lèvres mêmes de son mari, et ne pouvoir tromper sa pudeur céleste, et se trahir à chaque instant par quelque inexplicable stupidité. Il était écrit là-haut que Praskovi ne m'aimerait jamais. Pourtant, j'ai fait le plus grand sacrifice auquel puisse descendre l'orgueil humain. J'ai renoncé à mon moi et consenti à profiter sous une forme étrangère de caresses destinées à un autre. Il en était là de son monologue, quand un groom s'inclina devant lui avec tous les signes du plus profond respect en lui demandant quel cheval il monterait aujourd'hui. Voyant qu'il ne répondait pas, le groom se hasarda, tout effrayé d'une telle hardiesse, à murmurer Vulture ou Rustem? Ils sont pas sortis depuis 8 jours. Rustem, répondit Octave Labinski, comme s'il eût dit Vulture, mais le dernier nom s'était accroché à son esprit distrait. Il s'habilla de cheval et partit pour le bois de Boulogne, voulant faire prendre un bain d'air à son exaltation nerveuse. Rustem, bête magnifique de la race Nedji, qui portait sur son poitrail, dans un sachet oriental de velours brodé d'or, ses titres de noblesse remontant aux premières années de l'Égir, n'avait pas besoin d'être excité. Il semblait comprendre la pensée de celui qui le montait, et dès qu'il eut quitté le pavé et pris la terre, Il partit comme une flèche sans qu'Octave lui fît sentir l'éperon. Après 2 heures d'une course furieuse, le cavalier et la bête rentrèrent à l'hôtel, l'un calmé et l'autre fumant les naseaux rouges. Le comte supposé entra chez la comtesse, qu'il trouva dans son salon, vêtu d'une robe de taffetas blanc à volants étagés jusqu'à la ceinture, un nœud de ruban au coin de l'oreille, car c'était précisément le jeudi, le jour où elle restait chez elle et recevait ses visites. « Eh bien !» lui dit-elle avec un gracieux sourire, car la bouderie ne pouvait rester longtemps sur ses belles lèvres. « Avez-vous rattrapé votre mémoire en courant dans les allées du bois ?»« Mon Dieu, non, ma chère !» répondit Octave Lavinsky. « Mais il faut que je vous fasse une confidence. » Ne connais-je pas d'avance toutes vos pensées? Ne sommes-nous plus transparents l'un pour l'autre? Hier, je suis allé chez ce médecin dont on parle tant. Ah oui, le docteur Balthazar Cherbonneau, qui a fait un long séjour aux Indes et, dit-on, a pris des brames une foule de secrets plus merveilleux que les uns que les autres. Vous vouliez même m'emmener, mais je ne suis pas curieuse. « Car je sais que vous m'aimez, et cette science me suffit. »« Il a fait devant moi des expériences si étranges, opéré de tels prodiges que j'en ai l'esprit encore tout troublé. »« Cet homme bizarre, qui dispose d'un pouvoir irrésistible, m'a plongé dans un sommeil magnétique si profond qu'à mon réveil je ne me suis plus trouvé les mêmes facultés. » J'avais perdu la mémoire de bien des choses. Le passé flottait dans un brouillard confus. Seul mon amour pour vous était demeuré intact. Vous avez eu tort, Olaf, de vous soumettre à l'influence de ce docteur. Dieu, qui a créé l'âme, a le droit d'y toucher, mais l'homme, en l'essayant, commet une action impie. Dit d'un ton grave à la comtesse Praskovi-Labinska. J'espère que vous n'y retournerez plus, et que, lorsque je vous dirai quelque chose d'aimable en polonais, vous me comprendrez comme autrefois. Octave, pendant sa promenade à cheval, avait imaginé cette excuse de magnétisme pour pallier les débuts qu'il ne pouvait manquer d'entasser dans son existence nouvelle. Mais il n'était pas au bout de ses peines. Un domestique, ouvrant le battant de la porte, annonça un visiteur. « Monsieur Octave de Saville !» Quoiqu'il dût s'attendre un jour à l'autre à cette rencontre, le véritable Octave pâlit à ces simples mots comme si la trompette du jugement dernier lui eût brusquement éclaté à l'oreille. Il eut besoin de faire appel à tout son courage et de se dire qu'il avait l'avantage de la situation pour ne pas chanceler. Instinctivement, il enfonça ses doigts dans le dos d'une causeuse et réussit ainsi à se maintenir debout avec une apparence ferme et tranquille. Le comte Olaf, revêtu de l'apparence d'Octave, s'avança vers la comtesse, qu'il salua profondément. « Monsieur le comte Labinsky, monsieur Octave de Saville, » fit la comtesse Labinska en présentant les gentilshommes l'un à l'autre. Les deux hommes se saluèrent froidement en se lançant des regards fauves à travers le masque de marbre de la politesse mondaine qui recouvre parfois tant d'atroces passions. « Vous m'avez tenu rigueur depuis Florence, monsieur Octave, » dit la comtesse d'une voix amicale et familière, « j'avais peur de quitter Paris sans vous voir. Vous étiez plus assidu à la Villa Saviati, et vous comptiez alors parmi mes fidèles. »« Madame, » répondit d'un ton contraint le faux Octave, « J'ai voyagé, j'ai été souffrant, malade même, et en recevant votre gracieuse invitation, je me suis demandé si j'en profiterais, car il ne faut pas être égoïste et abuser de l'indulgence qu'on veut bien avoir pour un ennuyeux. Ennuyé, peut-être. Ennuyeux, non, répliqua la comtesse. Vous avez toujours été mélancolique, mais un de vos poètes ne dit-il pas de la mélancolie? Après l'oisiveté, c'est le meilleur des maux. C'est un bruit que font courir les gens heureux pour se dispenser de plaindre ceux qui souffrent, dit Olympe de Saville. La comtesse jeta un regard d'une ineffable douceur sur le comte, enfermé dans la forme d'Octave, comme pour lui demander pardon de l'amour qu'elle lui avait involontairement inspiré. « Vous me croyez plus frivole que je le suis. Toute douleur vraie à ma pitié, si je puis la soulager, j'y sais compatir. Je vous aurais voulu heureux, cher monsieur Octave, mais pourquoi vous êtes-vous cloîtré dans votre tristesse, refusant obstinément la vie qui venait à vous avec ses bonheurs, ses enchantements et ses devoirs? Pourquoi avez-vous refusé l'amitié que je vous offrais ?» Ces phrases si simples et si franches impressionnaient diversement les deux auditeurs. Octave y entendait la confirmation de la sentence prononcée au jardin Salviati par cette belle bouche que jamais ne souilla le mensonge. Et Olaf y puisait une preuve de plus de l'inaltérable vertu de la femme qui ne pouvait succomber que par un artifice diabolique. Aussi une rage subite s'empara de lui, en voyant son spectre animé par une autre âme installée dans sa propre maison, et il s'élança à la gorge du faux comte. « Voleur, brigand, scélérat, rends-moi ma peau !» Cette action si extraordinaire, la comtesse se pendit à la sonnette et des laquais emportèrent le comte. « Mais ce pauvre Octave est devenu fou !» dit Praskovie pendant qu'on emmenait Olaf qui se débattait vainement. « Oui, répondit le véritable Octave, fou d'amour, comtesse, vous êtes décidément trop belle. » Chapitre 11. 2 heures après cette scène, le faux comte reçut du vrai une lettre fermée avec le cachet d'Octave de Saville. Le malheureux dépossédé n'en avait pas d'autres à sa disposition. Cela produisit un effet bizarre à l'usurpateur de l'entité d'Olaf Labinski de décacher une missive scellée de ses armes, mais tout devait être singulier dans cette position anormale. La lettre contenait les lignes suivantes, tracées d'une main contrainte et d'une écriture qui semblait contrefaite, car Olaf n'avait pas l'habitude d'écrire avec les doigts d'Octave. Lue par tout autre que par vous, cette lettre paraîtrait datée des petites maisons, mais vous me comprendrez. Un concours inexplicable de circonstances fatales, qui ne se sont peut-être jamais produites depuis que la Terre tourne autour du Soleil, me force à une action que nul homme n'a faite. Je m'écris à moi-même et mets sur cette adresse un nom qui est le mien, un nom que vous m'avez volé avec ma personne. De quelle machination ténébreuse suis-je victime? Dans quel cercle d'illusions infernales ai-je mis le pied? Je l'ignore. Vous le savez sans doute. Ce secret, si vous n'êtes point un lâche, le canon de mon pistolet ou la pointe de mon épée vous le demandera sur un terrain où tout homme honorable ou infâme répond aux questions qu'on lui pose. Il faut que demain, l'un de nous et cessez de voir la lumière du ciel. Ce large univers est maintenant trop étroit pour nous deux. Je tuerai mon corps habité par votre esprit imposteur, ou vous tuerez le vôtre, ou mon âme s'indigne d'être prisonnière. N'essayez pas de me faire passer pour fou. J'aurai le courage d'être raisonnable, et partout où je vous rencontrerai, je vous insulterai, avec une politesse de gentilhomme, avec un sang-froid de diplomate. Les moustaches de M. le comte Olaf Lavinsky peuvent déplaire à M. Octave de Saville. Et tous les jours, on se marche sur le pied à la sortie de l'opéra. Mais j'espère que mes phrases bien obscures n'auront aucune ambiguïté pour vous et que mes témoins s'entendront parfaitement avec les vôtres pour l'heure, le lieu et les conditions du combat. Cette lettre jeta Octave dans une grande perplexité. Il ne pouvait refuser le cartel du comte, et cependant il lui répugnait de se battre avec lui-même, car il avait gardé pour son ancienne enveloppe une certaine tendresse. L'idée d'être obligé à ce combat par quelque outrage éclatant le fit se décider pour l'acceptation, quoique à la rigueur, il put mettre à son adversaire la camisole de force de la folie et lui arrêter ainsi le bras, mais ce moyen violent répugnait à sa délicatesse. Si, entraîné par une passion inéluctable, il avait commis un acte répréhensible et caché la manche sous le masque de l'époux pour triompher d'une vertu au-dessus de toutes les séductions, il n'était pourtant pas un homme sans honneur et sans courage. Ce parti extrême, il ne l'avait d'ailleurs pris qu'après 3 ans de lutte et de souffrance, au moment où sa vie, consumée par l'amour, allait lui échapper. Il ne connaissait pas le comte, il n'était pas son ami. Il ne lui devait rien, il avait profité du moyen hasardeux que lui offrait le docteur Balthazar Cherbonneau. Mais où prendre les témoins? Sans doute parmi les amis du comte, mais Octave, depuis un jour qu'il habitait l'hôtel, n'avait pu se lier avec eux. Sur la cheminée s'arrondissaient 2 coupes de céladon craquelées dont les anses étaient formées par des dragons d'or. L'une contenait des bagues, des épingles, des cachets et autres menus bijoux. L'autre, des cartes de visite où, sous les couronnes de ducs, de marquis, de comtes, en gothique, en ronde, en anglaise, étaient inscrits par des graveurs habiles une foule de noms polonais, russes, hongrois, allemand, italien, espagnol, attestant l'existence voyageuse du comte qui avait des amis dans tous les pays. Octave en prit 2 au hasard, le comte Zamolensky et le marquis de Sepulveda. Il ordonna d'atteler et se fit conduire chez eux. Il les trouva l'un et l'autre. Ils ne parurent pas surpris de la requête de celui qu'il prenait pour le comte Olaf Lavinsky. Totalement dénués de la sensibilité des témoins bourgeois, ils ne demandèrent pas si l'affaire pouvait s'arranger et gardèrent un silence de bon goût sur le motif de la querelle en parfaits gentilshommes qu'ils étaient. De son côté, le comte véritable, ou si vous l'aimez mieux, le faux Octave, était en proie à un embarras pareil. Il se souvint d'Alfred Imbert et de Gustave Rimbaud, au déjeuner duquel il avait refusé d'assister, et il les décida à le servir en cette rencontre. Les 2 jeunes gens marquèrent quelque étonnement de voir engager dans un duel leur ami, qui depuis 1 an n'avait presque pas quitté sa chambre, et dont ils savaient l'humeur plus pacifique que batailleuse. Mais lorsqu'il leur eut dit qu'il s'agissait d'un combat à mort, pour un motif qui ne devait pas être révélé, ils ne firent plus d'objection et se rendirent à l'hôtel Lavinsky. Les conditions furent bientôt réglées. Une pièce d'or jetée en l'air décida de l'arme, les adversaires ayant déclaré que l'épée ou le pistolet leur convenait également. On devait se rendre au bois de Boulogne à 6 heures du matin, dans l'avenue des Poteaux, près de ce toit de chaume soutenu par des piliers rustiques, à cette place libre d'arbres où le sable tassé présente une arène propre à ces sortes de combats. Lorsque tout fut convenu, il était près de 00h, et Octave se dirigea vers la porte de l'appartement de Praskovi. Le verrou était tiré comme la veille, et la voix moqueuse de la comtesse lui jeta cette raillerie à travers la porte. « Revenez quand vous serez le polonais. Je suis trop patriote pour recevoir un étranger chez moi. » Le matin, le docteur Charbonneau, qu'Octave avait prévenu, arriva portant une trousse d'instruments de chirurgie et un paquet de bandelettes. Ils montèrent ensemble en voiture. Messieurs Zamolieski et de la Poveda suivaient dans leur coupé. « Eh bien, mon cher Octave, dit le docteur, l'aventure tourne donc déjà au tragique. J'aurais dû laisser dormir le comte dans votre corps une huitaine de jours sur mon divan. J'ai prolongé au-delà de cette limite des sommeils magnétiques, mais on a beau avoir étudié la sagesse chez les Brahmes, les Pandis et les Sannyasis de l'Inde, on oublie toujours quelque chose, et il se trouve des imperfections au plan le mieux combiné. Mais comment la comtesse Palaskovi a-t-elle accueilli son amoureux de Florence ainsi déguisé? « Oh, je crois, répondit Octave, qu'elle m'a reconnu malgré ma métamorphose, ou bien c'est son ange gardien qui lui a soufflé à l'oreille de se méfier de moi. Je l'ai trouvée aussi chaste, aussi froide, aussi pure que la neige du pôle. Sous une forme anime aimée, son âme exquise devinait sans doute une âme étrangère. Je vous disais bien que vous ne pouviez rien pour moi. Je suis plus malheureuse encore que lorsque vous m'avez fait votre première visite. Qui pourrait assigner une borne aux facultés de l'âme, dit le docteur Balthazar Cherbonneau d'un air pensif, surtout lorsqu'elle n'est altérée par aucune pensée terrestre, souillée par aucun limon humain, et se maintient telle qu'elle est sortie des mains du Créateur dans la lumière, la contemplation et l'amour. Vous avez raison, elle vous a reconnu. Son angélique pudeur a frissonné sous le regard du désir et par instinct s'est voilée de ses ailes blanches. Je vous plains, mon pauvre Octave. Votre mal est en effet irrémédiable. Si nous étions au Moyen-Âge, je vous dirais entrez dans un cloître. J'ai souvent pensé, répondit Octave. On était arrivé. Le coupé du faux Octave stationnait déjà à l'endroit désigné. Le bois présentait à cette heure matinale un aspect véritablement pittoresque que la fashion lui avait fait perdre dans la journée. L'on était à ce point de l'été où le soleil n'a pas encore eu le temps d'assombrir le vert du feuillage. Des teintes fraîches, transparentes, lavées par la rosée de la nuit, nuançaient les massifs, et il s'en dégageait un parfum de jeune végétation. Les arbres, à cet endroit, sont particulièrement beaux, soit qu'ils aient rencontré un terrain plus favorable, soit qu'ils survivent seuls d'une plantation ancienne, leur tronc vigoureux, plaqué de mousse ou satiné d'une écorce d'argent, s'agrafent au sol par des racines noueuses, projettent des branches aux coudes bizarres et pourraient servir de modèle aux études des peintres et des décorateurs qui vont bien loin en chercher le moins remarquable. Quelques oiseaux que les bruits du jour font taire pupillaient gaiement sous la feuillée. Un lapin furtif traversait en trois bonds le sable de l'allée et courait se cacher dans l'herbe, effrayé du bruit des roues. Ces poésies de la nature surprises en déshabillé occupaient peu, comme vous le pensez, les deux adversaires et leurs témoins. La vue du docteur Charbonneau fit une impression désagréable sur le comte Olaf Labinski, mais il se remit bien vite. L'on mesura les épées, l'on assigna les places aux combattants, qui, après avoir mis habit bas, tombèrent en garde, pointe contre pointe. Les témoins crièrent « Allez !» Dans tout duel, quel que soit l'acharnement des adversaires, il y a un moment d'immobilité solennelle. Chaque combattant étudie son ennemi en silence et fait son plan, méditant l'attaque et se préparant à la riposte. Puis les épées se cherchent, s'agacent, se tâtent pour ainsi dire, sans se quitter. Cela dure quelques secondes qui paraissent des minutes, des heures à l'anxiété des assistants. Ici, les conditions du duel, en apparence ordinaire pour les spectateurs, étaient si étranges pour les combattants qu'ils restèrent ainsi en garde plus longtemps que de coutume. En effet, chacun avait devant soi son propre corps et devait enfoncer l'acier dans une chair qui lui appartenait encore la veille. Le combat se compliquait d'une sorte de suicide non prévu, et, quoique braves tous deux, Octave et le comte éprouvaient une instinctive horreur à se trouver l'épée à la main, en face de leur fantôme, et prêts à fondre sur eux-mêmes. Les témoins impatientés allaient crier encore une fois « Messieurs, mais allez donc !» lorsque les fers se froissèrent enfin sur leur carré. Quelques attaques furent parées avec prestesse de part et d'autre. Le comte, grâce à son éducation militaire, était un habile tireur. Il avait moucheté le plastron des maîtres les plus célèbres. Mais s'il possédait toujours la théorie, il n'avait plus pour l'exécution ce bras nerveux habitué à tailler des croupières aux bourrides de Chamille. C'était le faible poignet d'Octave qui tenait son épée. Au contraire, Octave, dans le corps du comte, se trouvait dans une vigueur inconnue, et quoique moins savant, il écartait toujours de sa poitrine le fer qui le cherchait. Vainement, Olaf s'efforçait d'atteindre son adversaire et risquait des bottes hasardeuses. Octave, plus froid et plus ferme, déjouait toutes les feintes. La colère commençait à s'emparer du comte, dont le jeu devenait nerveux et désordonné. Quitte à rester Octave de sa vie, il voulait tuer ce corps imposteur qui pouvait tromper Praskovi, pensée qui le jetait en inexprimable rage. Au risque de se faire transpercer, il essaya un coup droit pour arriver à travers son propre corps à l'âme et à la vie de son rival. Mais l'épée d'Octave se lia autour de la sienne avec un mouvement si près, si sec, si irrésistible, que le fer arraché de son poing jaillit en l'air et alla tomber quelques pas plus loin. La vie d'Olaf était à la discrétion d'Octave. Il n'avait qu'à se fendre pour le percer de part en part. La figure du comte se crispa, non qu'il eût peur de la mort, mais il pensait qu'il allait laisser sa femme à ce voleur de corps que rien désormais ne pourrait démasquer. Octave, loin de profiter de son avantage, jeta son épée et, faisant signe aux témoins de ne pas intervenir, marcha vers le comte stupéfait, qu'il prit par le bras et qu'il entraîna dans l'épaisseur du bois. « Mais que me voulez-vous ? » dit le comte. « Pourquoi ne pas me tuer lorsque vous pouvez le faire ? Pourquoi ne pas continuer le combat après m'avoir laissé reprendre mon épée ? S'il vous répugnait de frapper un homme sans armes. Vous savez bien que le soleil ne doit pas projeter ensemble nos deux ombres sur le sable et qu'il faut que la terre absorbe l'un de nous. Écoutez-moi patiemment, répondit Octave. Votre bonheur est entre mes mains. Je puis garder toujours ce corps où je loge aujourd'hui et qui vous appartient en propriété légitime. Je me plais à le reconnaître maintenant qu'il n'y a pas de témoins près de nous et que les oiseaux seuls, qui n'iront pas le redire, peuvent nous entendre. Si nous recommençons le duel, je vous tuerai. Le comte Olaf Slavinski, que je représente du moins mal que je peux, est plus fort à l'escrime qu'Ostax de Séville, dont vous avez maintenant la figure et que je serai forcé, bien à regret, de supprimer. et cette mort, quoique non réelle, puisque mon âme y survivrait, désolerait ma mère. » Le comte, reconnaissant la vérité de ses observations, garda un silence qui ressemblait à une sorte d'acquiescement. « Jamais, continua Octave, vous ne parviendrez, si je m'y oppose, à vous réintégrer dans votre virilité. Vous voyez à quoi ont abouti nos deux essais. D'autres tentatives vous feraient prendre pour un monomane. Personne ne croira un mot de vos allégations. Et lorsque vous prétendrez être le comte Laflabinski, tout le monde vous éclatera de rire au nez, comme vous avez déjà vu, et puis vous en convaincre. On vous enfermera, et vous passerez le reste de votre vie à protester, sous les douches, que vous êtes effectivement l'époux de la belle comtesse Praskovi-Labinska. Les âmes compatissantes diront en vous entendant, « Ce pauvre Octave, vous serez méconnu comme le Chabert de Balzac qui voulait prouver qu'il n'était pas mort. » Cela était si mathématiquement vrai que le comte abattu laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Puisque vous êtes pour le moment Octave de Saville, vous avez sans doute fouillé ses tiroirs, feuilleté ses papiers, et vous n'ignorez pas qu'il nourrit depuis 3 ans, pour la comtesse Praskovi-Labinska, un amour éperdu, sans espoir, qu'il a vainement tenté de s'arracher du cœur et qu'il ne s'en ira qu'avec sa vie, s'il ne le suit pas encore dans la tombe. Oui, je le sais, fit le comte en se mordant les lèvres. Eh bien, pour parvenir à elle, j'ai employé un moyen horrible, effrayant, et qu'une passion délirante pouvait seule risquer. Le docteur Charbonneau a tenté pour moi une œuvre à faire reculer les thaumaturges de tous les pays, de tous les siècles. Après nous avoir tous deux plongés dans le sommeil, il a fait magnétiquement changer nos âmes d'enveloppe. Miracle inutile, je vais vous rendre votre corps. Praskovi ne m'aime pas. Dans la forme de l'époux, elle a reconnu l'âme de l'amant, et son regard s'est glacé sur le seuil de la chambre conjugale comme au jardin de la Villa Salviati. Un chagrin si vrai se traduisait dans l'accent d'Octave et se trahissait si bien que le comte ajouta foi à ses paroles. « Je suis un amoureux, » ajouta Octave en souriant, « et non pas un voleur. Et puisque le seul bien que j'ai désiré sur cette terre ne peut m'appartenir, je ne vois pas pourquoi je garderai vos titres, vos châteaux, vos terres, votre argent, vos chevaux, vos armes. Allons, donnez-moi le bras, ayons l'air réconciliés. Remercions nos témoins. Prenons avec nous le docteur Charbonneau, et retournons au laboratoire magique d'où nous sommes sortis transfigurés. Le vieux Brahm saura bien défaire ce qu'il a fait. » « Messieurs, » dit Octave, soutenant quelques minutes encore le rôle du comte Laflavinski, « nous avons échangé, mon adversaire et moi, des explications confidentielles qui rendent la continuation du combat inutile. Rien n'éclaircit les idées entre honnêtes gens, comme de froisser un peu le fer. Messieurs Zamolyevski et Sepulveda remontèrent dans leur voiture. Alfred Imbert et Gustave Rimbaud regagnèrent leur coupé. Le comte Olaf Labinski, Octave de Saville et le docteur Balzar se dirigèrent grand train vers la rue du Regard. Chapitre 12. Pendant le trajet du bois de Boulogne à la rue du Regard, Octave de Saville dit au docteur Charbonneau, « Oh, mon cher docteur, je vais mettre encore une fois votre science à l'épreuve. Il faut réintégrer nos âmes, chacune, dans son domicile habituel. » Cela ne doit pas vous être difficile. J'espère que monsieur le comte Labinski ne vous en voudra pas pour lui avoir fait changer un palais contre une chaumière et loger quelques heures sa personnalité brillante dans mon pauvre individu. Vous possédez d'ailleurs une puissance à ne craindre aucune vengeance. » Après avoir fait un signe d'acquiescement, le docteur Balthazar Cherbonneau dit « Bon, l'opération sera beaucoup plus simple cette fois-ci que l'autre. Les imperceptibles filaments qui retiennent l'âme au corps ont été brisés récemment chez vous et n'ont pas eu le temps de se renouer. Et vos volontés ne feront pas cet obstacle qu'oppose au magnétiseur la résistance instinctive du magnétisé. Monsieur le comte pardonnera sans doute à un vieux savant comme moi de n'avoir pu résister au plaisir de pratiquer une expérience pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de sujets, puisque cette tentative n'a servi d'ailleurs qu'à confirmer avec éclat une vertu qui pousse la délicatesse jusqu'à la divination et triomphe là où tout autre eût succombé. Vous regarderez, si vous voulez, comme un rêve bizarre, cette transformation passagère, et peut-être plus tard. Ne serez-vous pas fâché d'avoir éprouvé cette sensation étrange que très peu d'hommes ont connue, celle d'avoir habité deux corps? La métempsychose n'est pas une doctrine nouvelle, mais avant de transmigrer dans une autre existence, les âmes boivent la coupe d'oubli, et tout le monde ne peut pas, comme Pythagore, se souvenir d'avoir assisté à la guerre de Troie. Le bienfait de me réinstaller dans mon individualité, répondit poliment le comte, équivaut au désagrément d'en avoir été exproprié. Cela soit dit sans aucune mauvaise intention pour M. Octave de Saville, que je suis encore et que je vais cesser d'être. Octave sourit avec les lèvres du comte Labinski à cette phrase, qui n'arrivait à son adresse qu'à travers une enveloppe étrangère, et le silence s'établit entre ces trois personnages à qui leur situation anormale rendait toute conversation difficile. Le pauvre Octave songeait à son espoir évanoui, et ses pensées n'étaient pas, il faut l'avouer, précisément couleur de rose. Comme tous les amants rebutés, il se demandait encore pourquoi il n'était pas aimé. Comme si l'amour avait un pourquoi. La seule raison qu'on en puisse donner est le « parce que », réponse logique dans son laconisme entêté que les femmes opposent à toutes les questions embarrassantes. Cependant, il se reconnaissait vaincu et sentait que le ressort de la vie, retendu chez lui un instant par le docteur Cherbonneau, était de nouveau brisé et bruissait dans son cœur comme celui d'une montre qu'on a laissé tomber à terre. Octave n'aurait pas voulu causer à sa mère le chagrin de son suicide, et il cherchait un endroit où s'étendre silencieusement de son chagrin inconnu sous le nom scientifique d'une maladie plausible. S'il eût été peintre, poète ou musicien, il aurait cristallisé sa douleur en chef-d'œuvre, et Prascovie, vêtue de blanc, couronnée d'étoiles, pareil à la Béatrice de Dante, aurait plané sur son aspiration comme un ange lumineux. Mais, nous l'avons dit en commençant cette histoire, bien qu'instruit et distingué, Octave n'était pas un de ces esprits d'élite qui impriment sur ce monde la face de leur passage. Âme obscurément sublime, il ne savait qu'aimer et mourir. La voiture entra dans la cour du vieil hôtel de la rue du Regard, cour au pavé serti d'herbes vertes, où les pas des visiteurs avaient frayé un chemin et que les hautes murailles grises des constructions inondaient d'ombres froides comme celles qui tombent des arcades d'un cloître. Le silence et l'immobilité veillaient sur le seuil comme deux statues invisibles pour protéger la méditation du savant. Octave et le comte descendirent, Et le docteur franchit le marchepied d'un pas plus leste qu'on aurait pu l'attendre de son âge, et sans s'appuyer au bras que le valet de pied lui présentait avec cette politesse que les laquais de grandes maisons affectent pour les personnes faibles ou âgées. Dès que les doubles portes se furent refermées sur eux, Olaf et Octave se sentirent enveloppés par cette chaude atmosphère qui rappelait au docteur celle de l'Inde et où seulement ils pouvaient respirer à l'aise, mais qui suffoquait presque les gens qui n'avaient pas été comme lui torréfiés 30 ans au soleil tropicaux. Les incarnations de Vishnu grimaçaient toujours dans leur cadre plus bizarre au jour qu'à la lumière. Shiva, le dieu bleu, ricanait sur son socle, et Durga, mordant sa lèvre cailleuse de ses dents de sanglier, semblait agiter son chapelet de crâne. Le logis gardait son impression mystérieuse et magique. Le docteur Balthazar Charbonneau conduisit ces deux sujets dans la pièce où s'était opérée la première transformation. Il fit tourner le disque de verre de la machine électrique, agita les tiges de fer du bac à mesmérien, ouvrit les bouches de chaleur de façon à faire monter rapidement la température, lut 2 ou 3 lignes sur des papyrus si anciens qu'ils ressemblaient à de vieilles écorces prêtes à tomber en poussière, et lorsque quelques minutes furent écoulées, il dit à Octave et au comte « Messieurs, je suis à vous, voulez-vous que nous commencions ?» Pendant que le docteur se livrait à ses préparatifs, des réflexions inquiétantes passaient par la tête du comte. « Lorsque je serai endormi, que va faire de mon âme ce vieux magicien à figure de macaque qui pourrait bien être le diable en personne? La restituera-t-il à mon corps ou l'emportera-t-il en enfer avec lui? Cet échange qui doit me rendre mon bien n'est-il qu'un nouveau piège, une combinaison machiavélique pour quelque sorcellerie dont le but m'échappe? Oh, pourtant ma position ne saurait guère empirer. Octave possède mon corps, et comme il le disait très bien ce matin, en le réclamant sous ma figure actuelle, me ferait enfermer comme fou. S'il avait voulu se débarrasser définitivement de moi, il n'avait qu'à pousser la pointe de son épée. J'étais désarmé à sa merci. La justice des hommes n'avait rien à y voir. Les formes du duel étaient parfaitement régulières et tout s'était passé selon l'usage. Allons, pensons à Praskovie et pas de terreur enfantine. Essayons du seul moyen qui me reste de la reconquérir. » Et il prit comme Octave la tige de fer que le docteur Balthazar Charbonneau lui présentait. Fulguré par les conducteurs de métal chargés à outrance de fluides magnétiques, les deux jeunes gens tombèrent bientôt dans un anéantissement si profond qui lui ressemblait à la mort pour toute personne non prévenue. Le docteur fit les passes, accomplit les rites, prononça les syllabes comme la première fois, et bientôt 2 petites étincelles apparurent au-dessus d'Octave et du comte avec un tremblement lumineux. Le docteur reconduisit à sa demeure primitive l'âme du comte Olaf Labinski, qui suivit d'un vol empressé le geste du magnétiseur. Pendant ce temps, l'âme d'Octave s'éloignait lentement du corps d'Olaf, et au lieu de rejoindre le sien, s'élevait comme toute joyeuse d'être libre, et ne paraissait pas se soucier de rentrer dans sa prison. Le docteur se sentit pris de pitié pour cette psyché qui palpitait des ailes, et se demanda si c'était un bienfait de la ramener vers cette vallée de misère. Pendant cette minute d'hésitation, l'âme montait toujours. Se rappelant son rôle, M. Charbonneau répéta de l'accent le plus impérieux l'irrésistible monosyllabe et fit une pause passe fulgurante de volonté. La petite lueur tremblotante était déjà hors du cercle d'attraction et traversant la vitre supérieure de la croisée, elle disparut. Le docteur cessa des efforts qu'il savait superflus et réveilla le comte qui, en se voyant dans un miroir avec ses traits habituels, poussa un cri de joie, jeta un coup d'œil sur le corps toujours immobile d'Octave, comme pour se prouver qu'il était bien définitivement débarrassé de cette enveloppe, et s'élança dehors après avoir salué la main de M. Balthazar Cherbonneau. Quelques instants après, le roulement sourd d'une voiture sous la voûte se fit entendre, et le docteur Balthazar Cherbonneau resta seul face à face avec le cadavre docteur de sa ville. « Par la trombe de Ganesh !» s'écria l'élève du brame d'Éléphanta lorsque le comte fut parti. « Voilà une fâcheuse affaire. J'ai ouvert la porte de la cage, l'oiseau s'est envolé, et le voilà déjà hors de la sphère de ce monde, si loin que le Sanyasi Brahmalogum lui-même ne le rattraperait pas. Je reste avec un corps sur les bras. Je puis bien le dissoudre dans un bain corrosif, si énergique qu'il n'en resterait pas un atome appréciable ou en faire en quelques heures une mobile pharaon, pareille à celle qu'enferment ces boîtes bariolées d'hiéroglyphes. Mais on commencerait les enquêtes, on fouillerait mon logis, on ouvrirait mes caisses, on me ferait toutes sortes d'interrogatoires ennuyeux. Ici, une idée lumineuse traversa l'esprit du docteur. Il saisit une plume et traça rapidement quelques lignes sur une feuille de papier qu'il serra dans le tiroir de sa table. Le papier contenait ces mots. N'ayant ni parents ni collatéraux, je lègue tous mes biens à M. Octave de Saville, pour qui j'ai une affection particulière, à la charge de payer un legs de 100 000 francs à l'hôpital brahmanique de Ceylan, pour les animaux vieux, fatigués ou malades, de servir 1 200 francs de rente viagère à mon domestique indien et à mon domestique anglais, et de remettre à la bibliothèque Mazarine le manuscrit des lois de Manou. Ce testament fait à un mort par un vivant n'est pas une des choses les moins bizarres de ce conte invraisemblable et pourtant réel. Mais cette singularité va s'expliquer sur le champ. Le docteur toucha le corps d'Octave de Saville que la chaleur de la vie n'avait pas encore abandonné, regarda dans la glace son visage ridé, tanné, rugueux comme une peau de chagrin, d'un air singulièrement dédaigneux, et faisant sur lui le geste avec lequel on jette un vieil habit lorsque le tailleur vous en apporte un neuf, il murmura la formule du Sanyasi Brahma Logum. Aussitôt le corps du docteur Balthazar Cherbonneau roula comme foudroyé sur le tapis, et celui d'Octave de Saville se redressa fort alerte et vivace. Octave Cherbonneau se tint debout quelques minutes devant cette dépouille maigre, osseuse et livide, qui n'étant plus soutenue par l'âme puissante qui la vivifiait tout à l'heure, offrit presque aussitôt les signes de la plus extrême sénilité, et prit rapidement une apparence cadavéreuse. Octave Cherbonneau se tint debout quelques minutes devant cette dépouille maigre, osseuse et livide, qui n'étant plus soutenue par l'âme puissante qui la vivifiait tout à l'heure, offrit presque aussitôt les signes de la plus extrême sénilité et prit rapidement une apparence cadavéreuse. « Adieu, pauvre lambeau humain, misérable guenille percée au coude, et limée sur toutes les coutures, que j'ai traînée 70 ans dans les 5 parties du monde. Tu m'as fait un assez bon service, et je ne te quitte pas sans quelques regrets. On s'habitue l'un et l'autre à vivre si longtemps ensemble. Mais avec cette jeune enveloppe, que ma science aura bientôt rendue robuste, je pourrai étudier, travailler, lire encore quelques mots du grand livre sans que la mort le ferme au paragraphe le plus intéressant en disant « c'est assez ». Cette oraison funèbre adressée à lui-même, Octave Cherbonneau sortit d'un pas tranquille pour aller prendre possession de sa nouvelle existence. Le comte Olaf Labinski était retourné à son hôtel et avait fait demander tout de suite si la comtesse pouvait le recevoir. Il la trouva assise sur un banc de mousse dans la serre, dont les panneaux de cristal relevés à demi laissaient passer un air tiède et lumineux au milieu d'une véritable forêt vierge de plantes exotiques et tropicales. Elle lisait Novalis, un des auteurs les plus subtils, les plus raréfiés, les plus immatériels qu'ait produit le spiritualisme allemand. La comtesse n'aimait pas les livres qui peignent la vie avec des couleurs réelles et fortes, et la vie lui paraissait un peu grossière à force d'avoir vécu dans un monde d'élégance, d'amour et de poésie. Elle jeta son livre et leva lentement les yeux vers le comte. Elle craignait de rencontrer encore, dans les prunelles noires de son mari, ce regard ardent, orageux, chargé de pensées mystérieuses, qui l'avait si péniblement troublé et qui lui semblait, appréhension folle, idée extravagante, le regard d'un autre. Dans les yeux d'Olaf éclatait une joie sereine, brûlait d'un feu égal un amour chaste et pur. L'âme étrangère qui avait changé l'expression de ses traits s'était envolée pour toujours. Praskovi reconnut aussitôt son Olaf adoré et une rapide rougeur de plaisir nuança ses rouges transparentes. Quoiqu'il ignorât les transformations opérées par le docteur Cherbonneau, sa délicatesse de sensitive avait pressenti tous ces changements sans pourtant qu'elle s'en rendît compte. « Que lui disiez-vous là, cher Praskovi ?» dit Olaf en ramassant sur la mousse le livre relié de maroquin bleu. « Oh, l'histoire de Henri de Fortingen, oh, c'est le même volume que je suis allé vous chercher à Franc-Étrier à Moïlef, un jour que vous aviez manifesté à table le désir de la voir. À minuit, il était sur votre guéridon, à côté de votre lampe. Mais aussi, Ralph, on est resté poussif. Et je vous ai dit que jamais plus je ne manifesterai la moindre fantaisie devant vous. Vous êtes du caractère de ce grand d'Espagne qui priait sa maîtresse de ne pas regarder les étoiles puisqu'il ne pouvait les lui donner. Et si tu en regardais une, répondit le comte, j'essaierai de monter au ciel et de l'aller demander à Dieu. Tout en écoutant son mari, la comtesse repoussait une mèche révoltée de ses bandeaux qui scintillait comme une flamme dans un rayon d'or. Ce mouvement avait fait glisser sa manche et mis à nu son beau bras, que cerclait au poignet le lézard constellé de turquoise qu'elle portait le jour de cette apparition aux Cassines, si fatale pour Octave. Quelle peur, dit le comte, vous a causé jadis ce pauvre petit lézard que j'ai tué d'un coup de badine lorsque, pour la première fois, vous êtes descendu au jardin sur mes instants de prière. Je le fis mouler en or et orner de quelques pierres, mais même à l'état de bijoux, il vous semblait toujours effrayant. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que vous vous décidâtes à le porter. Oh, j'y suis habitué tout à fait maintenant. Et c'est un de mes joyaux, celui que je préfère, car il me rappelle un bien cher souvenir. Oui, reprit le comte. Ce jour-là, nous convînmes que le lendemain, je vous ferai demander officiellement en mariage à votre tante. La comtesse, qui retrouvait le regard, l'accent du vrai Olaf, se leva rassurée d'ailleurs par ces détails intimes, lui sourit, lui prit le bras et fit avec lui quelques tours dans la serre, arrachant au passage de sa main restée libre quelques fleurs dont elle mordait les pétales de ses lèvres fraîches, comme cette Vénus de Schiavone qui mange des roses. Puisque vous avez si bonne mémoire aujourd'hui, dit-elle en jetant la fleur qu'elle coupait de ses dents de perles, vous devez avoir retrouvé l'usage de votre langue maternelle, que vous ne saviez plus hier. Oh, répondit le comte en polonais, c'est celle que mon âme parlera dans le ciel, pour te dire que je t'aime, si les âmes gardent au paradis un langage humain. Praskovi, tout en marchant, inclina doucement sa tête sur l'épaule d'Olaf. Cher cœur, murmura-t-elle, vous voilà tel que je vous aime. Hier, vous me faisiez peur, et je vous ai fui comme un étranger. Le lendemain, Octave de Saville, animé par l'esprit du vieux docteur, reçut une lettre liserée de noir qui le priait d'assister au service convoi et enterrement de M. Balthazar Cherbonneau. Le docteur, revêtu de sa nouvelle apparence, suivit son ancienne dépouille au cimetière, se vit enterré et écouta d'un air de componction fort bien joué les discours que l'on prononça sur sa fosse, et dans lesquels on déplorait la perte irréparable que venait de faire la science. Puis il retourna rue Saint-Lazare et attendit l'ouverture du testament qu'il avait écrit en sa faveur. Ce jour-là, on lut aux faits divers dans les journaux du soir, Monsieur le docteur Balthazar Cherbonneau, connu par le long séjour qu'il a fait aux Indes, ses connaissances philologiques et ses cures merveilleuses, a été trouvé mort hier dans son cabinet de travail. L'examen minutieux du corps éloigne entièrement l'idée d'un crime. Monsieur Cherbonneau a sans doute succombé à des fatigues intellectuelles excessives ou péri dans quelque expérience audacieuse. On dit qu'un testament holographe, découvert dans le bureau du docteur, lègue à la bibliothèque Mazarine des manuscrits extrêmement précieux et nomme pour son héritier un jeune homme appartenant à une famille distinguée, Monsieur O. de S.